Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Nouveau rendez-vous dans Libre à vous ce mardi au Café Libre pour débattre autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Luc sur la merdification des médias et également la chronique de Laurent et Laurette Costi sur coupe, frites verticales, rétro-ingénierie et transition associative. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 31 octobre 2023. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour, Julie Chaumard, aidée de Étienne Gonu. Bonjour les amis.
Bonjour.
Salut, bonne émission.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer avec la chronique La Pituite de Luc. La Pituite de Luc est une chronique rafraîchissante, au bon goût exemplaire, qui éveille l'esprit et développe la libido. Il a été prouvé scientifiquement qu'écouter la pituite augmente le pouvoir de séduction, augmente le succès dans les affaires ou aux examens et décuple le sex appeal. Retour de l'être aimé, il reviendra manger dans votre main comme un petit chien. Le thème du jour, la merdification des médias. Alors je précisais en introduction que si je reprends les propos de Luc dans sa chronique du 26 juin dernier, la merdification offre une représentation de la façon dont fonctionne un certain capitalisme dont font partie certains géants de l'internet, Google et autres. L'idée est que ces entreprises gagnent du fric non pas avec leur domaine d'activité, mais avec la promesse de lendemain qui chante en version capitaliste toutefois. Donc le thème du jour, la merdification des médias.
J'ai évoqué le concept de merdification lors d'une précédente chronique. Et cette fois, je vais parler des médias, mais il ne s'agira pas de plagier l'extrême droite et sa marque déposée de Merdia. Par médias, je parle des dispositifs matériels qui portent des messages, pas ceux qui ont fait profession de produire des contenus pour les fourrer dans un tuyau. Un média, c'est un truc qui permet de porter un message vers un ou plusieurs destinataires. L'air est un média, il porte la vibration de ma voix jusqu'à vos oreilles à cet instant précis. Mais ma démonstration ne marche pas du tout pour les lecteurs de la transcription. Pour eux, c'est la lumière qui portera l'information. Sauf bien sûr s'ils utilisent une plage braille. Je réfléchissais récemment à la façon dont les médias ont tendance à se merdifier les uns après les autres. Sous l'effet d'un bruit plus ou moins volontaire, leurs utilisateurs migrent tels des oiseaux fuyant des températures extrêmes vers des médias moins nuls, pour l'instant. C'est avec mon téléphone pro que le truc m'a frappé. Le développement ces dernières années des arnaques au CPF ont achevé le bidule. Je ne décroche plus, je bloque. Si tout le monde fait comme moi, la téléphonie sera bientôt constituée d'un ensemble de numéros qui se seront bannis les uns les autres. Sur Internet, le phénomène a commencé très tôt. Usenet est par exemple tombé dans l'oubli alors qu'il est réputé pour avoir porté le tout premier spam de l'histoire. Serdar Argic, son nom sans l'anagramme à plein nez mais a priori c'est une fausse piste, envoyait automatiquement une réponse à toute personne dont le message contenait le mot anglais « Turkey ». Mais en anglais, « Turkey » a un double sens. Ainsi, lors des fêtes de Thanksgiving, c'était un peu confus. Les Américains recevaient des messages niant l'absence totale d'implication des Turcs dans un autre génocide que celui perpétré par leurs propres ancêtres sur des autochtones dont ils fêtaient la générosité en bouffant un tas de dindes mortes. Mais bref, quand je suis allé sur Usenet lors de mes débuts sur Internet, c'était pourri de pubs en tout genre, je n'ai pas insisté et les fournisseurs d'accès l'ont rapidement bloqué. Il paraît que ça existe encore, mais le commun des mortels n'a même pas idée que ça ait jamais existé. Le mail connaît un destin assez proche. Ce même commun l'utilise de moins en moins car leurs messages se perdent sous des tonnes de spam et de pubs au point qu'ils préfèrent les messages des réseaux sociaux. Il en va d'ailleurs de même avec la vraie poste. Dans une boîte aux lettres, sur un kilo de papier, le vrai courrier ne doit représenter guère plus de 50 grammes. Même les humains d'ailleurs, ils sont couverts de marques et bouffent largement ce que la pub leur a dit de bouffer. Combien de pubs dans un kilo d'humain? 500? 700 grammes? Mais l'essence de la merdification n'est pas de se laisser étouffer par la pub et le spam, mais de faire des choix stratégiques éclairés qui mènent au même résultat. Ces médias, en vertu de leur modèle fermé et propriétaire, ne devraient pas avoir de problème de gouvernance, et pourtant. Mon tiercé gagnant est Google en troisième position, qui plombe la qualité des réponses de son moteur de recherche pour avancer plus de pubs, Facebook en second, pour qui étaler la merde est élevé au rang d'art de vivre, et Twitter en première position, dont le service presse a longtemps répondu par un emoji caca, et qui a plusieurs longueurs d'avance dans tous les domaines. On suspecte un cas de dopage, mais dans ce genre de course, c'est autorisé. Mais encore plus fort, ces réseaux privateurs pourraient se vanter d'au moins être capables de ne pas se faire parasiter par les spammeurs et les escrocs de tout poil. Mais ce n'est même pas le cas. Tous relaient des pubs louches, et notamment pour des contrefaçons de logiciels libres contenant du code malveillant. Alors que faire? Pour le téléphone, j'ai une idée. Il faut taper les démarcheurs au porte-monnaie. Je propose le développement d'une app qu'on pourrait appeler Keep Talking ou Whatever, parce que cause toujours, ça fait pas assez start-up. L'idée est que l'application prendrait l'appel en charge. À chaque blanc dans la conversation, elle enverrait une phrase de relance du genre « Je sais pas trop, j'ai pas bien compris ». Vous pouvez réexpliquer ? Pas trop, non. Faut voir. À ce régime-là, le coût des campagnes de démarchage devrait devenir insoutenable. Et pour les médias sociaux, je crois que nous avons déjà la réponse. Des logiciels libres, un fait divers, animé par des humains comportant au moins un tiers de liberté, un tiers d'égalité et un tiers de fraternité.
Nous venons d'écouter donc la pituite de Luc, la merdification des médias. Nous allons passer une pause musicale. En attendant, nous allons écouter Balkarabic Chicken par Quantum Jazz. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune,
écoutez Balkarabic Chicken par Quantum Jazz, disponible sous licence libre Creative Commons, partageant les mêmes conditions CC BY SA. Je précise que ce groupe, cette musique, a été proposée par l'une des invitées, Magali Garnero, que nous allons retrouver dans quelques instants.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre par notre sujet principal. Alors, je ne sais pas pourquoi les invités du jour sont un petit peu dissipés, peut-être parce que nous avons rendez-vous au Café Libre aujourd'hui. Donc, avant toute chose, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, soit sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, soit directement sur le site de l'émission libreavous.org. Ce mardi, nous initions en effet un nouveau format de sujet principal dans Libre à vous. Nous vous souhaitons donc la bienvenue au Café Libre où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre, des libertés informatiques, dans un moment convivial agrémenté de café, thé ou autre boisson. Un temps de débat donc avec notre équipe de libristes de choc issue d'une rigoureuse sélection, pour reprendre les propos de mon collègue Étienne Gonu, pour discuter avec elle et eux et débattre des sujets d'actualité autour du libre et des libertés informatiques. Alors je vais vous les présenter, mais vous les connaissez déjà pour les avoir entendus dans l'émission plus ou moins régulièrement d'ailleurs. À ma gauche, alors bizarrement elle ressemble pas à ce qu'elle ressemble d'habitude, mais je pense qu'on saura plus à la fin de l'émission, Magali Garnero dit Bouquinette, qui est présidente de l'April et qui est libraire. Bonjour Mag.
Salut.
Tout en face de moi au studio, Dr G, docteur en informatique, secteur conventionné 42, et aussi, surtout actuellement, auteur-dessinateur de bandes dessinées disponibles sous licence libre, et également d'un jeu, Superflux, qui n'est pas encore disponible sous licence libre, mais mon collègue a dit qu'il était très très bien. Bonjour G.
Bonjour.
Et à ma droite, Isabelle Carrère d'Antanac, association copine située au 18 rue Bernard Dimet, sachant que le studio de la radio est au 22 rue Bernard Dimet. Récupération, reconditionnement d'ordinateurs avec des logiciels libres. Un principe, le don, partage. Un but, la promotion des échanges, de l'entraide et des partages de compétences, de savoir et savoir-faire, de réflexion et des créations. Bonjour Isa.
Salut.
Alors donc aujourd'hui on va parler un peu de l'actualité du livre. On a préparé quelques sujets, mais évidemment vous pouvez en proposer d'autres sur le salon web. Alors au menu ce mardi, donc en entrée, nous allons parler des événements du livre. Les plats principaux, le projet de loi SREN, dont on va expliquer après tout à l'heure l'acronyme. Les sorties du livre aussi, on parlera également de Twitter, de Blue Sky, de Mastodon. En dessert, on parlera sans doute, si on a le temps, du pack office et le débat entre pack office et logiciel libre dans les administrations. À la fin, peut-être un petit pot sur le rachat de Next Impact, qui est historiquement un site qui traite nos dossiers. Et puis peut-être un petit clin d'œil final que nous présentera Mag à la fin de l'émission. Alors on va commencer tout de suite, les événements à venir dans l'actualité. Donc 18 et 19 novembre à Toulouse, le Capitole du Libre. Et donc je vois Magali dans le programme, que tu donneras deux conférences, on y reviendra. Mais déjà, est-ce que tu peux nous présenter le Capitole du Libre? Et finalement, c'est quoi ce genre d'événement en fait? Ça s'adresse à qui?
Alors, c'est un événement qui existe depuis pas mal d'années sur Toulouse, dans un espace qui est réservé depuis pas mal de temps. Il y a 10 salles en parallèle, autant vous dire que ça promet énormément de conférences et d'ateliers. Effectivement, je participe à deux d'entre eux. Et je pense que je vais pas passer beaucoup de temps sur le stand d'April, tellement le programme est intéressant cette année. Alors après, quels sont les gens qui vont venir? Je pense qu'il y a plein de gens, parce que vu le programme, ça s'adresse aux débutants, mais ça s'adresse aussi aux experts qui peuvent aller approfondir certaines de leurs connaissances. Il y a pas mal d'ateliers, et je sais pas quoi en dire de plus, il y a une conférence d'ouverture, il y a même une conférence de fermeture, il me semble qu'il y a un cocktail le samedi soir, donc on pourra même continuer à discuter en mode un peu moins sérieux.
Et il y a un gros gâteau à la fin du cocktail.
Là tu trolles.
Voilà, on va se permettre des petites trolls, ou en tout cas petites références privées, mais bon, Toulouse est réputée pour ses gâteaux, notamment dans le cadre de l'April. Donc l'April leur a un stand. Isa ou G, est-ce que vous participez à ce genre d'événement? J'ai pas l'impression que je te vois beaucoup à ce genre d'événement en fait. Ah, libriste.
Si. Alors il se trouve que cette année j'y vais pas, j'ai d'autres obligations, mais si, Capitole du Libre, j'y suis allé plusieurs fois et c'est un événement très sympa. Alors je sais pas s'il y a du gâteau, par contre faites gaffe à la pause café, pensez à demander des chocolatines quand vous êtes à Toulouse. Donc ça peut créer un scandale si vous demandez un pain au chocolat. J'y vais de temps en temps. Moi j'ai tendance à faire celui-ci et les journées du logiciel libre à Lyon, c'est les deux que je fais principalement. Je saurais pas dire lequel je préfère, mais Capitole du Libre c'est très sympa. Donc ça se passe dans les locaux de l'ENSEIT, qui est une école d'ingénieurs à Toulouse. C'est vrai qu'il y a souvent un programme dense. Hein. Magali disait tout à l'heure qu'elle savait pas si elle allait réussir à être sur le stand, et que y a même certaines conférences qu'elle allait pas pouvoir faire parce qu'il y en a trop des biens en même temps. Donc c'est pour vous dire qu'il faut y aller, quoi. Allez-y si vous êtes dans le coin, et si vous n'êtes pas dans le coin et que vous avez les moyens de prendre le train, vraiment allez-y, quoi.
Et c'est des événements qui sont organisés, alors tant Capitole du Libre que
Journée du logiciel libre.
sont organisées par des équipes de bénévoles, parce qu'après, ouais, on va parler d'un événement qui est organisé également par des bénévoles, mais aussi par des professionnels. Donc, les journées du logiciel libre de l'ALDIL, donc l'association lyonnaise pour le développement de l'informatique libre, c'est autour d'avril, mars, oui, voilà, exactement, autour du printemps. Donc, Capitole du Libre, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est 18 et 19 novembre. Il y a quelques événements, il n'y a pas beaucoup, tant que ça, d'événements un peu importants libristes en France. Hein, c'est pas, il y a des petits événements qui sont organisés. Avant, il y avait les rencontres mondiales du livre,
voilà, ce que j'allais dire,
qui étaient organisées dans différentes villes, hein, qui historiquement sont nées à Bordeaux dans les années 2000, et puis on peut migrer dans différentes villes, et puis depuis quelques années se sont arrêtés parce que c'est une trop grosse organisation. Mais voilà. Mais en tout cas, Capitole du Livre fait partie des événements importants.
Toi, il y a quand même des petits, d'autres petits événements. C'est-à-dire que, oui, je suis d'accord. Moi, j'ai pas trop le temps, malheureusement, d'aller dans ce genre d'endroit. C'est compliqué de tout faire, en fait, dans la vie. Mais il y a quand même des petits événements aussi à droite à gauche de libristes. C'est-à-dire, c'est pas simplement, je suis d'accord que c'est super important, les grands routes, mais moi je suis assez friande aussi des choses plus décentralisées ou plus, voilà, un peu plus spontanées, à droite à gauche.
C'est-à-dire sans un programme défini, ouais, plutôt, ouais, avec, voilà, on vient les mains dans les poches et on...
Peut-être pas les mains dans les poches, mais en tout cas quelque chose qui est plus, tu vois, qui prétend pas à être the grand big truc, voilà, mmh, moi j'aime bien ça.
Et Antanac a des stands présentes ses activités dans ce genre d'événement ? Je crois que je vous ai jamais vu...
Est-ce qu'on était visible? Non, on n'est pas bon là-dessus.
On n'est pas
hyper nombreux.
Voilà, c'est ça.
C'est,
oui,
ça aussi. Okay. C'est ce que je disais. Il y a la question du temps, il y a la question de bénévolat. Tu en parlais. Hein, on peut pas demander à des gens bénévoles de faire des tas de choses en permanence tout le temps. Ils ont une vie par ailleurs, un boulot parfois ou des choses. Bon, c'est pas si facile que ça. Ouais, tu voulais dire.
Mac, tu voulais réagir?
Ouais, parce que là, on parlait des gros événements, et donc le Capitole du Libre à Toulouse, qui est organisé par l'association Tout Libre, mais typiquement, il n'y a même pas 10 jours, 15 jours, j'étais déjà à la médiathèque de Toulouse, dans un événement où on était plusieurs à être invités, organisé par l'association Tout Libre, qui est hyper active.
Voilà.
Donc, il y a plein de petits événements comme ça. Quand je suis passée vers Linuxmen, ils participaient à un événement Journée de la Réparation. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait plein d'événements, pas forcément des énormes événements, mais des petits événements.
Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça. Il y a eu des choses à Marseille qui sont passées aussi. Oui. Il y a des choses, voilà, des petits événements dans lesquels un groupe de gens vraiment impliqués. Alors c'est peut-être pas des conférenciers, c'est peut-être pas des gens qui sauraient tenir le micro pendant 3 heures, mais c'est des gens qui font des choses concrètes.
C'est trop long 3 heures pour un micro. Hein,
je te donne la parole. Attends, j'ai juste une précision parce qu'il y a un débat qui est lancé en régie. Etienne qui est à fond. En fait, il dit, en vrai, je crois qu'il dit pain au chocolat à Toulouse, ou il confond peut-être avec Montpellier. Donc,
Toulouse, j'ai dit chocolatine.
J'ai dit chocolatine. Je pense que Julie doit avoir la réponse, parce que vu l'accent qu'elle a, Julie, allez, vas-y, Julie.
Effectivement, je viens de la région de Toulouse.
Le micro plus près.
Et on dit bien pain au chocolat. On dit bien chocolatine.
Ah, non, elle est troublée.
Je disais aussi.
Elle est troublée, Julie.
Non, on dit chocolatine.
Chocolatine.
Absolument.
Ok. Alors, Julie, la prochaine fois que tu interviens, mets ton micro plus près, rapproche-le pour qu'on t'entende bien. En tout cas, on dit bien chocolatine.
Enfin, en même temps, là, pour vous dire, la juste auditorice, hein, on n'a ni chocolatine, ni pain au chocolat, ni café, ni rien.
Ouais,
alors,
dommage.
Les boissons que Fred annonçait au café libre, c'est vachement libre, mais il y a de la flotte.
C'est vrai que commencer une émission d'actu par une grosse fake news en disant qu'il y a du café alors qu'on est à la flotte,
ça c'est vraiment pas bon, quoi. Pas du tout.
Un endroit où historiquement, je crois que tu voulais intervenir là-dessus.
Oui, non, je voulais dire qu'effectivement c'était chouette qu'il y ait plein de petits événements, et notamment c'était chouette qu'ils soient un peu éparpillés sur toute la France. Avoir des trucs locaux, ça permet aussi d'attirer plus de gens. Je parlais de prendre le train tout à l'heure, mais le train c'est cher, puis il y en a pas toujours de là où on vient, et du coup avoir plein de petits événements, c'est aussi ça qui permet de pouvoir avoir des choses un petit peu partout, ce qui est assez chouette.
Alors j'ai une question quiz. Magali n'a pas le droit de répondre parce que elle connaît forcément la réponse. Bon, je suppose aussi, Isa aussi, mais enfin bon, réponse facile. Les auditeuristes qui nous écoutent, sur quel site on les envoie pour découvrir tous ces événements?
Moi je l'ai. Ah non, les événements. Ah oui, les événements. Si, alors, j'ai plus l'adresse exacte en tête, c'est l'agenda du libre.
Voilà.
L'agendadulibre.org, je dirais.
Agendadulibre.org.
Agenda du libre sans le L.
Non, agenda du libre.
Non, mais sans, c'est pas l'agenda du libre, c'est agenda du libre.org.
On retrouve donc un annuaire des organisations locales et aussi des événements qui sont annoncés. Donc, par exemple, pour les Parisiennes et les Parisiens, chaque premier samedi, il y a le samedi du libre à la Cité des Sciences et de l'Industrie, mais bon, le Capitole du Libre. Et on encourage les personnes qui organisent des événements à soumettre un événement, parce que des fois, on apprend des événements libristes ont lieu, mais ils sont pas annoncés sur l'agenda du libre, donc c'est un petit peu dommage. Tant qu'on est dans les événements, avant de passer le suivant, on va revenir quelques semaines en arrière, début septembre, Mag. peut-être un petit retour. Toi, tu étais présente sur un autre salon, alors qui n'est pas libriste, hein, mais sur un espace libriste dans un gros forum qui s'appelle la fête de l'Huma. Comment ça s'est passé?
Ah, c'était extraordinaire, quoi. Parce que moi, quand je dis fête de l'Huma, je pense à tente, gadou, pas d'électricité, pas d'internet. Mais là, en fait, pas du tout cette année. On a eu un truc limite luxe, grand luxe. On était dans une tente fermée avec des portes vitrées, des toilettes juste pour nous. Et on a rencontré un nombre incroyable de personnes qui sont venues nous apporter de l'amour. Donc, il y avait énormément d'associations. Il y avait l'April, forcément, Framasoft, Mozilla, les Ordi Libres. C'est un peu grâce à cette association qu'on y est encore. Ubuntu, Debian, enfin, bref, il y avait vraiment plein de gens. On a pu organiser nos propres conférences. Et je me rappelle d'une conférence que j'ai donnée samedi sur les femmes dans le numérique, où il y avait tellement de monde qu'il y avait des gens qui étaient assis par terre, il y avait des gens qui étaient debout, bref, on était envahis. Et c'était vraiment très fort. Je suis pas habituée à ça, mais c'était vraiment très fort comme événement. Donc je suis contente qu'on puisse aller squatter la fête de l'Huma, quoi.
Alors on va parler donc d'un événement totalement différent pour montrer aussi que les libris sont présents dans plein d'endroits différents. Parce que finalement, en fête de l'Huma, les événements libristes tels que Capitole du Libre et puis les journées du logiciel libre à Lyon et puis dans d'autres endroits, les plus petits événements. Et puis début décembre, c'est les 6 et 7 décembre à Paris, c'est un événement un peu différent. Alors déjà, ils ne parlent pas de logiciel libre hein, parce que c'est open source expérience. Donc on renvoie sur le site de l'April les gens qui se poseraient la question entre la différence entre open source et logiciel libre. On va dire que l'open source est une version plutôt technique, marketing, là où le logiciel libre est une version plutôt éthique, on va dire. Sauf que bon, on a quand même un stand, il y a des conférences. C'est quoi les différences principales entre cet événement-là et les autres, finalement?
Alors,
Mag, ou qui?
Magali, vas-y, parce que moi, j'ai jamais participé à l'open source.
Okay, alors, il refuse, en fait. il est trop capitaliste pour lui. Mag.
Fait, pour moi, c'est plus un événement qui est organisé pour les entreprises, pour les professionnels. C'est là où justement certaines entreprises vont avoir des stands pour pouvoir recruter ou trouver des clients. C'est là où il y a des conférences vraiment professionnelles, mais en même temps il y a aussi des conférences sur l'éducation. C'est un événement qui se veut international avec énormément de conférenciers qui parlent anglais, allemand ou autre. Donc c'est pas du tout le monde libriste auquel on est habitué. Il y a plus de gens en costard cravate qu'en jean. Sauf dans un endroit qui s'appelle le Village du Libre, que j'organise depuis je sais pas combien de temps, où là, c'est des associations qui viennent gratuitement. C'est vraiment sympa.
C'est les hippies qui font de l'entrisme, c'est ça?
Ouais, si tu veux. Voilà. Et donc, là, on peut retrouver une vingtaine d'associations qui vont dire du bien sur le logiciel libre.
Oui, mais qui du coup ne trouvent pas à cet endroit-là leur public, je trouve. Moi, nous, on y est allé 2-3 fois avec Antanac, et j'ai trouvé, effectivement, il y a ce petit village gaulois, complètement à l'ouest, là. Mais je trouve que du coup, il n'y a pas le public. Le public, comme tu dis, il est avec les costards-cravates, et il est... BCBG bien pensant, on va dire, sur faisant de l'open source, c'est hyper classe.
Très moderne. Alors en fait, il y a les deux. Il y a beaucoup ce public-là, mais il y a aussi beaucoup un public d'étudiantes et d'étudiants, parce qu'ils viennent chercher souvent se renseigner d'un point de vue professionnel autour du logiciel libre, voire de chercher des stages, etc. Donc on touche ce public-là aussi, ce qui est quand même intéressant. Et je vais juste rappeler que c'est la présence des associations libristes est gratuite, hein, les stands sont offerts. Et c'est historiquement, depuis le premier événement pro logiciel libre en France, qui de mémoire, donc c'était 99, qui devait s'appeler Linux Expo, on avait convaincu l'organisation, alors qui depuis a changé, c'est plus tout le même événement, qu'il était important que la communauté soit présente, mais que bien sûr la communauté doivent être là gratuitement. On paye évidemment pas les stands, et ça permet d'apporter un peu de vie, un peu plus de vie que les autres stands. Ouais. Après, les stands professionnels sont pour beaucoup très très sympas quand même. Hein, donc ça, c'est Open Source Experience 6 et 7 décembre 2023. Donc vous pouvez nous rencontrer à plusieurs endroits. Vous pourrez rencontrer Magali avec plusieurs conférences, donc à Capitole du Libre et sans doute à Open Source Experience. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant qu'on passe aux plats principaux, aux plats de résistance?
Non, je voulais être sûr. On est d'accord, c'est enregistré les conférences que tu fais, puis du coup elles vont être passées une fois.
Certaines sont, oui, beaucoup sont enregistrées. Okay, cool. Ça va dépendre de la salle en fait, mais la plupart sont enregistrées.
Ça marche.
Ouais.
Super.
Tu parlais de quoi, d'Open Source Experience ou de Capitole du Libre?
Non, de Capitole.
À Capitole.
Je crois que Capitole du Libre, ils sont assez connus justement pour faire des très bonnes captations vidéo, il me semble.
Ouais, la dernière fois, j'ai fait une mini-conférence de 20 minutes dans une salle totalement obscure où il y avait 3 pecnos, et on m'a envoyé un lien vers l'enregistrement, donc j'imagine que ça va encore être le cas. Okay.
Alors avant de conclure et passer au plat de résistance, Étienne me fait remarquer qu'il a entendu des super confs bien politiques à Open Source Experience, et aussi sur les questions féministes ou écologiques notamment. Et d'ailleurs, l'April interviendra dans la track informatique éthique et durable, je suis plus sûr du terme, mais sur un retour d'expérience autour des actions autour de la diversité. Donc ça sera peut-être Magali qui la fera ou Isabella, on verra en fonction des disponibilités. Et c'est vrai que il n'y a pas que des présentations business, effectivement. Il y a aussi un track qui est géré notamment par Richard, Anna et puis d'autres personnes qui est très intéressant, quoi. Donc voilà, je vous donne les liens, mais ils sont sur le site de l'émission sur libreavoue.org. Sinon, Open Source Experience, c'est opensourceexperience.org. Capitole du Libre, c'est capitoleulibre.org. Et les journées du logiciel libre à Lyon, de mémoire, c'est jdll.org, parce que sinon, ouais, ça fait un peu trop long, quoi.
Aucune originalité.
Aucune originalité. Alors, maintenant, nous allons arriver aux plats principaux qui sont un peu plus consistants et qui sont plusieurs, d'ailleurs, hein, après cette petite introduction. Alors, le premier plat principal, c'est Isa, toi, qui l'a proposé, hein, c'est de parler, alors rapidement, parce qu'en fait, on va en parler beaucoup plus en détail la semaine prochaine, ça va être un peu du teasing, mais le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, dit SREN, qui était en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Alors, ça vient de se finir à l'Assemblée nationale, ça va passer en commission mixte paritaire. Donc Isa, pourquoi souhaites-tu qu'on parle de ce sujet ?
Pour plein de raisons. Il m'a semblé que c'était un sujet d'actualité. Alors c'est vrai que, okay, il y aura une émission et tant mieux, et sûrement que les gens qui vont en parler seront bien meilleurs que moi, puis pour de vrai, des informaticiens et autres là-dessus. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur pour plein de raisons. D'abord parce que dès que en France ou en Europe ou ailleurs d'ailleurs, on se mêle de faire des choses d'une censure extrajudiciaire. Mes antennes, elles vibrent. Parce qu'on n'est pas... Quand il y a une justice, quand il y a une loi, ok, on peut combattre la loi, on peut être en désaccord avec elle, mais au moins c'est carré. Dès qu'il y a des possibilités qui sont données à des préfets, à la police, à je ne sais pas qui, de faire des choses autrement comme ils le souhaitent de manière extrajudiciaire, moi j'ai peur. J'ai peur parce que du coup, on n'est plus dans un état de droit, dans un état qui donc affiche ce qui est possible et impossible. C'est la première, pour moi, c'est le premier danger de cette affaire. La deuxième, c'est la question de la fin de l'anonymat. Et qui parle d'Internet libre, on se pose la question de qui suis-je derrière mon écran ? Oui.
Pseudonymat ou anonymat ? Plutôt la tentative de la fin du pseudonymat, parce que l'anonymat complet n'existe pas vraiment sur Internet.
Non, ouais,
il faut être très 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 fort et ne faire aucune erreur pour être totalement anonyme, vu qu'il y a eu des condamnations récentes.
Je savais bien que j'étais pas une pro sur les sujets,
non, mais
tu vois, Fred. Mais tu as raison, tu as complètement raison, le terme c'est celui-là. Voilà, pseudonymat,
parce que l'anonymat sur Internet, en fait, on peut trouver, enfin, sauf à ne faire aucune erreur. Et même Stéphane Borsmeyer, qui lui, en général, ne fait aucune erreur, dire que c'est quasiment impossible de ne pas en faire.
Oui, mais je voulais dire par là, par exemple, si on dit, si on doit vérifier à chaque fois que tu vas sur un site, tu vas sur une page, tu vas à quelque chose, on te demande ton âge. Ah ah ah, elle est bonne, d'accord.
Alors ça, c'est la vérification de l'âge, notamment pour l'accès à des sites pornographiques et autres.
Mais pas simplement, en fait. Il y a plein d'endroits dorénavant où on se dit qu'il faut qu'on te demande si tu as le droit d'être là où tu es. Ben, pour moi, c'est pareil. Est-ce que l'Internet est différent de la rue ? Pour moi, non. Est-ce que ce qu'on s'autorise de faire à un endroit, du coup, on doit s'autoriser de le faire ailleurs ou pas ? Enfin, voilà, je trouve ça hyper intéressant. Je dis pas que tout ça, tout est nul, hein. Je dis que ça part vraisemblablement quelque part d'une bonne intention. Bah, ok. Mais aussi de mauvaises intentions. Et c'est là où ça se réunit joyeusement et ça se met en peut-être en contradiction ou pas. En tout cas, la question de retirer des contenus qui est demandée, donc c'est sous 24 heures, je crois, de mémoire. Il faut que les gens retirent les contenus qui ont été
décrits. C'est pas dans cette loi-là. C'est pas dans ce projet de loi.
Ah ben si.
Ah si ?
Les 24 heures ?
Si.
Ah si, me semble.
Les 24 heures pour tout ce qui est les contenus pédocriminels ou terroristes.
C'est le règlement européen, hein, pour mémoire. Hein.
Mais tous les contenus décrétés comme pédocriminels ou terroristes doivent être enlevés sous 24 heures. Non ? C'est pas ça, Magali ? Je me trompe ?
Alors en fait, si on peut revenir un peu en arrière, ouais, le SREN, donc ce projet de loi, il est une manière de réglementer, enfin, de rendre légal, enfin, de faire passer des lois, de légiférer en France ce qui a été passé au niveau européen, qui sont deux règlements, le DSA, Digital Service Act, et le DMA, Digital Market Act. Et donc, ils veulent effectivement réguler la loi, ils ont fait passer plein de choses, dont peut-être cet article-là des 24 heures, ce que je trouve totalement débile, parce que qui va s'en rendre compte au bout de 24 heures et pour enlever tout ça au bout de 24 heures, il faut vraiment avoir des gens payés que pour ça. Voilà. Et donc, effectivement, c'est légiférer pour rien, sachant que même la Commission européenne a dit « mais de quoi vous vous mêlez ?» Donc ils peuvent légiférer comme ils veulent, on n'est même pas sûr que ce soit accepté.
Ouais, mais en fait, c'est ce truc de faire de la censure un peu automatique, enfin ce qu'on appelle censure administrative au lieu de judiciaire. Effectivement, c'est un truc très à la mode. Enfin, moi, c'était la même chose avec la loi Hadopi, par exemple, qui était où on arrête de poursuivre les gens pour contrefaçon de musique, par exemple, et puis on se dit bon, on va faire un truc automatique. Et c'est justement dû à deux choses. C'est dû au fait que si on voulait effectivement être efficace au niveau de judiciaire, bah ça demanderait des moyens. Ouais, faudrait donner plus de moyens à la justice, et ça c'est pas trop l'ambiance. Et ce que du coup on aime bien, enfin je dis on, hein, c'est les gens qui décident de ce genre de truc aiment bien, c'est de pouvoir faire des trucs automatiques. Et évidemment la justice automatique c'est pas encore bien accepté par les gens, mais par contre l'administration automatique ça va. Donc du coup bah on peut faire pour la Hadopi, c'était la détection automatique d'IP, puis on envoie des emails dans tous les sens, même si la détection d'IP c'est pas fiable ou ce qu'on voudra. Alors,
précise ce que c'est qu'une adresse IP.
Quand vous connectez à Internet votre ordinateur, on lui assigne une adresse qui permet du coup de l'identifier. Ça, c'est la version simple. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On peut se cacher derrière d'autres adresses IP. Du coup, si votre gamin de 8 ans utilise votre ordinateur, ben, c'est votre adresse IP, mais en vrai, c'est pas vous. Donc, du coup, ça vous identifie pas vous non plus. Et si votre accès à Internet est pas sécurisé, ben, ça peut être même quelqu'un d'autre, en fait. Bref. Et donc oui, il y a ce truc de vouloir tout automatiser, et là en fait dans ce truc des 24 heures, ce qui est dangereux en fait, c'est qu'effectivement personne va avoir le temps de faire ça. Le problème c'est que si on commence à vouloir que les gens fassent ça, bah ça va déclencher de l'autocensure et de la surcensure de partout, parce qu'en fait par défaut typiquement les petites organisations qui ont pas le temps, qui ont pas les moyens humains de réagir sous 24 heures, vont juste recevoir un truc et se dire ouais non bah dans le doute je supprime, j'ai pas le temps de regarder. Et ça c'est ça qui est aussi hyper dangereux, c'est que en fait on crée les conditions d'une surcensure et d'une surautocensure, quoi.
Je suis complètement d'accord, une surcensure, surautocensure et surdélation. C'est-à-dire que du coup, ce qui se passe aussi, et c'est à ça que je voulais arriver, c'est la question de quand est-ce que et qui décide. Ok, il y a les automatismes en termes informatiques et autres, mais qui décide que tel discours, il est acceptable versus il ne l'est pas? Qui décide d'appeler tel et tel groupe ou groupuscule ou personne terroriste, hein, c'est le mot à la mode.
Gérald Darmanin.
Ah, c'est lui, mais non. Ah, c'est ça. Non, mais exactement. C'est-à-dire que du coup, tout va bien. Ok, bah on parle de rien alors. Non, mais il y a le moment. Donc c'est un mot à la mode, terrorisme, d'accord. Donc il y a les éco-terroristes. Après, il y aura les je sais pas quoi terroristes, les machins terroristes. Et bientôt, on pourra potentiellement l'être tous toutes. Et so, on fait quoi?
Juste. On va reconnaître notre tort avec Étienne et le mien en premier. Effectivement, il y a les 24 heures dans le projet de loi SREN sur la pédopornographie.
Ça se voit qu'on a bossé, du coup.
Ouais, t'as vu, on a travaillé.
Je vous pose la question, si vous bossez sur la partie logicielle libre du projet de loi. Magali.
Ce qui est tragique, en plus, c'est que c'est même plus... Enfin, il va toujours avoir l'État qui va faire la censure, mais surtout, ils vont transmettre cette responsabilité à des entreprises, des associations. Hein. Et quand ces entreprises, genre les GAFAM, qui ont ce pouvoir-là, parce que moi, j'appelle ça un pouvoir, je trouve ça effrayant. Effrayant de se dire que, je suis anti-censure, mais en plus, la censure faite par des entreprises qui sont là pour faire des sous sur notre dos, je trouve ça encore pire que si c'était juste par un État. Et tu demandais qui va décider que c'est un acte terroriste ou pas terroriste, je pense que ça va être effrayant, parce que dans certains pays, il y a des choses qui vont être normales et que ça va laisser passer, puis dans d'autres pays, ça va être des raisons, des preuves qui vont être retournées contre leurs propres citoyens. Et ça, c'est pas un monde dans lequel j'ai envie de vivre.
Ouais, moi non plus, mais alors vraiment pas du tout. Et par exemple, un autre exemple dans cette loi aussi, c'est la question de la majorité numérique. Est-ce qu'on peut décider quand est-ce que quelqu'un... Alors, on avait, au cinéma, on a dit, il y a les 10 ans, 12 ans, 18 ans, je sais plus quoi, enfin, il y a des choses comme ça. Est-ce que dans le numérique, on va arriver à ça aussi? C'est-à-dire, toi, tu as 10 ans, alors tu as le droit de regarder telle gamme de sites, toi, non?
Alors, moi, je veux juste dire un truc, c'est parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent entendre ça et qui peuvent se dire qu'on est des inconscients. Le fait qu'on ait énormément de très jeunes qui accèdent à plein de porno sur Internet, c'est quand même un problème, il faut le reconnaître. Et moi, le premier, je veux dire, la première fois que j'ai cliqué sur « oui, j'ai 18 ans », j'avais pas 18 ans, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est vrai que utiliser ce vrai problème... Et pour créer ce genre de loi, c'est-à-dire en gros de prendre un bazooka pour dégommer une mouche, hein, enfin de se dire en fait on va complètement mettre fin au pseudonymat et puis commencer à demander des tas d'informations personnelles aux gens, des informations personnelles qui sont quand même vachement précises, enfin l'âge de quelqu'un, quand même une information personnelle qui est importante. Oui, c'est extrêmement gênant. Et du coup, j'arrive pas à voir ce qui serait possible de faire pour effectivement lutter contre ce problème de l'accès de masse à la pornographie, hein, parce que enfin c'est devenu ça. Moi, quand je dis ça, moi j'allais cocher les cases machin, mais c'était l'ordinateur de mes parents. Maintenant, tous les gamins ils ont un smartphone dans la poche, donc c'est incroyablement facile. Et je sais pas comment on peut faire sans virer dans un truc complètement autoritaire, sachant que j'avais lu que la Grande-Bretagne, qui avait été assez pionnière sur ce truc-là de mettre de la vérification d'âge, est revenue sur ce truc parce que c'était inapplicable. Pareil pour l'Australie, pareil pour le Texas, j'avais lu. Enfin voilà, donc c'est compliqué. Ouais.
Il y a la question de déterminer de l'âge, mais il y a surtout moi la vraie, enfin deux autres vraies questions que ça me pose, c'est est-ce que on donne une responsabilité à des parents en leur disant, bon ben voilà, du coup, toi, il faut que tu aies le droit, c'est ça que propose la loi, hein, de supprimer, par exemple, un compte d'un réseau social de son enfant. Ça veut dire quoi dans la façon dont la loi vient faire une intrusion dans les relations parents-enfants, dans la question de la parentalité, etc., en indiquant, d'une certaine manière, hein, que ben, ceux qui le feraient pas sont évidemment des mauvais parents. Et moi, j'ai une deuxième question qui est, est-ce que, dans cette société-là, on est en train de se préparer à... Un jeune, un enfant n'a pas droit à avoir de l'intimité. C'est-à-dire que, ok, il y a la question de la pédocriminalité, mais ouais, comme tu le dis, je suis pas sûr que ça soit 95% de ce que voit et regarde. On a des formes, on le voit bien, de harcèlement, de cyberharcèlement qui n'ont rien à voir en fait à l'origine avec des champs de pédérastie ou autre et qui sont vraiment d'un autre champ. Enfin, je veux dire, on traite ça de manière hyper catégorielle avec des casquettes sur des choses et moi ça me paraît dangereux que ça soit pas plus réfléchi.
Sur l'abandon de l'intimité des enfants, moi par exemple, il y a un truc qui m'avait extrêmement choqué quand j'étais... Moi, j'ai pas de gosse, hein, mais j'ai fréquenté des gens qui en avaient et de voir ce qu'ils ont, ne serait-ce comme logiciel à l'école, de voir à quel point les gamins sont fliqués. Moi, je me disais, s'il y avait eu ça quand j'étais gamin, mais ma vie aurait été un enfer, quoi. Déjà là, moi, j'avais des parents qui étaient... Ma maman est prof et mon père travaillait dans le lycée où j'étais, donc... Déjà, en termes de ce que mes parents pouvaient savoir sur moi, c'était même supérieur aux autres enfants. Mais là, je me dis, s'ils avaient eu un accès comme ça, direct à l'intégralité de tes notes, de tes comportements, de tes trucs. Enfin, c'est, en fait, l'intimité chez les gamins, j'ai l'impression qu'on s'assoit déjà énormément dessus, en fait. Mm-hmm. Et du coup, c'est pour ça que ce genre de truc ne choque personne, quelque part. C'est le côté, de toute façon, c'est les gamins, ils n'ont pas à avoir une vie privée. C'est les enfants, quoi.
Le projet de loi, il concerne, comme tu l'as dit, beaucoup, beaucoup de choses. Mais il y a aussi les librairies sont concernées directement, en tout cas. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut juste faire une explication d'une minute ou deux?
Moi, je sais qu'en tant que présidente de l'April, j'ai été contactée par Mozilla. Donc Mozilla, c'est le navigateur web de Firefox, parce qu'il y avait l'article 6 qui avait été mis en place et qui, en gros, allait obliger les navigateurs à faire de la censure sur les sites sur lesquels les utilisateurs et utilisatrices pouvaient arriver. Et c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable, que soit le navigateur qui fasse de la censure, sachant que d'habitude, il y a une sorte de filtrage qui est mis en place, mais c'est plutôt au niveau du DNS. Mmh. Alors le DNS, je ne suis pas la mieux placée pour en parler, donc j'ai noté plus ou moins ce que c'est, mais c'est ce qui transforme l'adresse IP d'un site internet en une sorte d'adresse URL. Non,
en fait, c'est quand tu tapes, tout à l'heure, J parlait des adresses IP qui permettent de... qui concerne ton adresse d'ordinateur, mais qui est aussi les adresses de sites web. En fait, le DNS, ça permet, t'as pas besoin de connaître l'adresse IP d'une machine pour accéder au serveur qui est derrière. Par exemple, l'agenda du libre, c'est agendadulibre.org, et c'est le DNS qui fait la conversion de l'agendadulibre.org dans son adresse IP, en fait.
Je trouve que l'image la plus parlante, c'est un annuaire, en fait. Quand tu cherches un annuaire, tu cherches un nom, ça te donne un numéro de téléphone. Ouais. Bah là, tu cherches un nom de site, ça te donne son adresse IP, c'est l'équivalent.
Voilà. Et donc, il y a déjà quelque chose qui est fait à ce niveau-là. Et il y a déjà deux sites qui permettent de faire ce filtrage-là, qui sont un de chez Google et un de chez Microsoft. Bon, c'est pas terrible, mais ça existe déjà. Et donc, ce serait encore rajouter une couche de censure pour quelque chose qui existe déjà.
Mais c'est rajouter une couche de censure, c'est demander à tous les navigateurs, quels qu'ils soient, donc là il y a une pétition effectivement de Mozilla Firefox là-dessus pour éviter cette affaire-là, et c'est toujours la même question de qui décide que ce site est un site d'arnaque ou pas, et qui décide que c'est une chose qu'il faut surtout pas laisser se propager, versus... Bon, je trouve que ça pose exactement les mêmes questions que celles qu'on évoquait tout à l'heure, non ?
Tout à fait. Alors, je vais juste, on va bientôt faire la pause musicale, je vais juste rajouter un point là-dessus et donc réannoncer en fait que mardi 7 novembre 2023, donc la semaine prochaine, le sujet principal de l'émission sera consacré justement à ce projet de loi avec nos amis de la Quadrature du Net, d'ACTUP et de Mozilla. Et juste préciser que initialement, effectivement, il était question d'une liste de blocage de sites dans l'amendement, dans le texte. Suite à un amendement, en fait, maintenant, c'est un filtrage. Mozilla semble considérer que ça convient, mais on verra ce que nous dira la personne représentante de Mozilla la semaine prochaine. Donc, voilà, c'était, vous pourrez en savoir plus. Et je vous renvoie aussi sur le site de l'April. La dernière actu publiée par mon collègue Étienne Gonu parle justement de ce projet de loi et de l'état où on en est des discussions. Donc, il est passé à l'Assemblée nationale en première lecture. Là, il va aller en commission mixte paritaire, c'est-à-dire 14 parlementaires, 7 de l'Assemblée nationale, 7 du Sénat vont décider de la version finale de ce projet de loi, donc visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Alors on va faire une pause musicale parce que quand même ça avance. Je pense que c'est une pause musicale qui va plaire à G à mon avis. Nous allons écouter Tuer dans l'œuf de Aux Abris et on se retrouve dans environ je sais pas combien, donc en tout cas on se retrouve après.
Cause commune 93.1.
L'aigu du ras-le-bol dans le rouge, je tiens. J'ai allumé la télé. Quoi de neuf dans l'horreur et le malheur, c'est évident, il faut faire quelque chose. Ça sonne super, c'était le facteur. J'ai eu mes allocs et la vie est rose. Révolution, révolution. J'ai envie de bouffer du fric, mais aujourd'hui j'ai du fric. Révolution, révolution. Les manifs main dans la main. Ça peut attendre demain. Faut qu'on s'être tout par-dessus l'univers. Par-dessus l'air. Là que je pense à comment j'ai j'en ai. Je suis mort au con et j'ai la haine devant le sixième demi de l'après-midi. Saloperie de flipper, j'ai même pas de veine, même pas claqué à la loterie. Un copain me dit tout va mal, on est d'accord, il faut faire quelque chose. Mes chiffres, voilà le match de football, on va s'accorder une petite pause. Révolution, révolution, c'est écrabouillé, ça y est la France a paumé. Révolution, révolution, et tous main dans la main, et on dit tous. Je sens que ça bouge, ai-je bien éteint sous le carrefourlé. L'aigu du ras-le-bol dans le rouge, tiens, j'ai allumé la télé. Quoi de neuf dans l'horreur et le malheur, c'est évident, il faut faire quelque chose. Ça sonne super, c'était le facteur, j'ai eu mes allocs et la vie est rose.
J'ai mes allocs et la vie est rose.
La vie est rose.
Nous venons d'écouter Tué dans l'œuf par le groupe Aux Abris, disponible sous licence Art Libre. Donc nous allons poursuivre notre discussion, notre échange plutôt, hein. Nous sommes toujours au Café Libre. Nous débattons de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. Là, on a eu un gros plat principal avec le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. On va avoir un deuxième gros bloc derrière en parlant de Twitter, peut-être Blue Sky, Mastodon. Donc généralement, entre deux plats principaux, qu'est-ce qu'on fait au café ou dans les restaurants? On prend un petit pouce pour digérer. Hein, vous mettez ce que vous voulez dans le pouce.
Hein.
De l'eau, si vous voulez, voilà. Ou du thé. Et donc, le petit pouce, ça va être les sorties du libre. Alors, on va citer deux, on va parler rapidement de deux sorties importantes. On va commencer par celle dont tu voulais parler, G, et qui concerne Ardour. Alors, c'est quoi Ardour et pourquoi tu voulais en parler?
Alors, oui, Ardour, il y a eu la version 8 qui est sortie le 8 octobre. Donc, c'est une station de musique assistée par ordinateur. Donc, ce serait l'équivalent libre d'un Cubase ou d'un Pro Tools. Et c'est un logiciel que je trouve vraiment pas suffisamment connu, parce que quand on parle musique et son libre, les gens pensent beaucoup à Audacity, mais Audacity c'est un logiciel qui est beaucoup moins évolué qu'Ardour. Ardour c'est vraiment une station complète, on peut faire de l'enregistrement, du mixage, du montage, enfin c'est vraiment extrêmement puissant, et c'est un des logiciels libres, je trouve, qui a une interface extrêmement intuitive et vraiment bien foutue. Et donc cette nouvelle version, alors, j'ai pas encore eu l'occasion de la tester, mais dans les nouveautés, il y a notamment quelque chose que je trouve assez chouette, c'est le détecteur de tempo variable. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on fait de la musique assistée par ordinateur, souvent on a un clic, c'est-à-dire un tempo fixe qui est donné sur lequel on peut créer des partitions, faire jouer des instruments virtuels, ce genre de choses. Et donc on a énormément de musique qui est enregistrée au clic, c'est-à-dire que en fait les musiciens, même les musiciens, musiciennes qui jouent en vrai, ont un tempo dans les oreilles pour rester sur ce tempo. Sauf que ça, évidemment, ça peut avoir un effet un petit peu mécanique, et si vous écoutez de la musique des années 70, Led Zeppelin et compagnie, en vrai, si vous essayez de taper le tempo, ça change. C'est-à-dire que pendant le refrain, si ça s'excite un peu, ils vont avoir tendance à accélérer naturellement, hein, c'est quelque chose qu'on fait. Et donc là, l'idée, c'est que bah, vous pouvez jouer votre musique sans avoir un tempo dans l'oreille, et après, Ardour peut détecter et recaler automatiquement le tempo de manière variable, du coup, parce que le tempo va varier. Ce qui vous permet après bah, quand même de mettre des instruments virtuels par-dessus qui restent synchronisés avec, ce qui, a priori, est vraiment quelque chose de très très chouette, quoi.
Ok, bah, on va préciser que tu as bien présenté Ardour sur la musique. C'est aussi utilisé pour le traitement de podcasts. Notre équipe de bénévoles de traitement de podcasts utilise Ardour pour traiter les podcasts. Et ça me fait penser, d'ailleurs je l'ai noté sur mon papier, qu'on devrait organiser un jour un sujet principal autour de ces stations audio, et notamment Ardour, avec notamment deux personnes sans doute de l'équipe podcast. Je pense peut-être Samuel et Julien, et peut-être Elodie aussi. En tout cas, et on en profite pour les remercier, parce que les personnes qui écoutent en podcast ont une meilleure qualité de son que les personnes qui écoutent en direct. Mais des fois, peut-être que les gens du podcast enlèvent des trucs qui sont drôles en direct, je ne sais pas. En tout cas, Ardour. Autre sortie dont on voulait parler assez rapidement, parce que c'est une des distributions logicielles libres les plus connues et puis les plus importantes, donc je vais laisser une des personnes présenter ce que c'est. Qui veut parler de Debian, dont la dernière sortie, version à jour, est sortie en juin 2023 et la dernière mise à jour en octobre 2023? Qui veut parler de Debian rapidement?
Bah moi, je peux parler de Debian, donc nouvelle version, système d'exploitation libre qui en permet d'enlever d'autres choses ultra moches, sorti le 10 juin 2023, je m'en souviens bien parce qu'à l'April, on a organisé deux apéros, un pour la sortie, un parce que c'était trop sympa, c'était l'anniversaire.
Non. Il y avait l'anniversaire de Debian en plus, c'est pour ça qu'on a fait deux apéros différents.
Enfin, tout bien, tout
qui fêtait,
bon.
Le projet Debian fêtant ses 30 ans.
Ah oh putain, ils sont presque aussi vieux que moi. Super sympa l'apéro, plein de nouvelles versions, plein de nouvelles fonctionnalités dans cette nouvelle Debian 12. Je sais pas quoi en dire de plus, à part que c'est le meilleur système d'exploitation, mais je vais me faire taper dessus par les copains d'Ubuntu, alors je dirai rien de plus.
Bah, déjà, c'est un des rares projets, et peut-être l'un des derniers, qui est géré entièrement par une équipe de bénévoles, avec en plus une charte d'organisation, une gouvernance, etc.
Ouais, moi j'ai trouvé juste deux trucs sur ce sujet-là, c'est que ça m'a halluciné de lire qu'il y avait 65 000 paquets dans cette...
Alors les paquets, c'est les logiciels qui sont préconfigurés pour fonctionner. Ouais. Alors petite question quiz, mais je suppose que vous connaissez la réponse. Comment s'appelle la dernière version de Debian, vu qu'elle a à chaque fois un nom?
Bookworm.
Alors, G ne répondra pas à la question suivante. D'où vient le nom des différentes versions de Debian?
Oh my god. J'étais déjà expert.
Alors, est-ce qu'en Régie, ils ont la réponse ? Est-ce que Julie, Étienne a la réponse ?
Étienne a la réponse.
Donc, J, est-ce que tu peux expliquer d'où vient ça ? Enfin, alors, peut-être que tu n'as pas la réponse.
Il me semble que c'est les personnages de Toy Story.
Exactement. Et donc, okay. Le personnage de Bookworm, donc, en français, c'est Vermisso. Alors, si vous vous souvenez, c'est un petit ver de couleur verte vivant dans un livre et qui porte de grosses lunettes et toujours muni d'une lampe torche.
Et Bullseye, alors, c'était quoi ? C'était qui ?
Alors, Bullseye, alors,
c'était la version 11.
Oui, c'était la version 11.
En fait, le truc qui est compliqué, c'est de fait, plus les versions vont loin, plus ils sont obligés de trouver des personnages secondaires qu'on
voilà,
connaît
pas. Parce que c'est des personnages secondaires.
On avait Woody, c'est une des premières. Alors, il y en a une qui est rigolote, c'est la version de développement qui s'appelle Sid pour Still in Development. Ouais. Mais Sid, c'est le méchant gamin dans Toy Story.
Qui casse tous ses jouets.
C'est ça.
Et on dit souvent, là, pour préciser, il y a différentes versions de Debian. Il y a une version donc, qui est Still in Development, donc Sid, qui est vraiment réservée aux personnes qui développent Debian, donc il ne faut pas trop l'utiliser parce que sinon elle peut casser du jour au lendemain, vu que tous les jours ils font des mises à jour. Il y a une version intermédiaire qui est une version testing, que moi j'utilise par exemple, qui peut être utilisé, mais bon, voilà, il faut prendre quelques risques éventuellement, mais il n'y a quand même pas beaucoup.
Qui sert de base à Ubuntu, si je dis pas de bêtises.
Ah, Debian sert de base, a priori.
Mais je crois que c'est cette version particulièrement, je crois que c'est la version testing, me semble-t-il, qui sert de base.
D'accord. Et il y a la version stable, qui sort tous les 2-3 ans, qui a donc vraiment été testée, et qu'on utilise aussi pour beaucoup sur les serveurs, parce qu'on a besoin effectivement d'une pérennité de test, voilà. Et mon collègue Étienne me précise que Bullseye, c'est le cheval de Woody, effectivement. Ah, voilà, donc okay. C'était les sorties du livre, c'était ce petit digestif à base d'eau, de thé et autres joyeusetés alimentaires avant d'attaquer un sujet notre sujet principal. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux et là on va parler un petit peu de Twitter, Blue Sky, Mastodon. Alors pourquoi ? Parce que en préparant l'émission, quelqu'un a suggéré que voilà, il est tombé sur une actu qui disait que Elon Musk menaçait de fermer Twitter en Europe et il rajoutait bon débarras point d'interrogation. Donc je sais pas si vous savez pourquoi Elon Musk voudrait fermer Twitter ou pas.
C'est pour des histoires, je crois, comme d'habitude, de la réglementation européenne qui est trop protectrice des utilisateurs et utilisatrices par rapport à celle des États-Unis.
Après. Voilà, et qui remettra en cause la notion de liberté d'expression de Donald.
Il l'a fait.
Je l'ai même pas fait exprès en plus. Elon Musk qui est effectivement très extrême où tout le monde peut dire n'importe quoi. Donc c'est une menace qu'il a. En fait, il a quand même précisé parce que c'est dans Numérama que c'est sorti. Donc ça a été démenti par Elon Musk.
Elon Trump.
Récemment, plus récemment, il y avait aussi la perspective d'avoir à payer pour avoir le droit d'écrire sur Twitter, qui maintenant s'appelle en plus X. Donc on va voilà. Face à ça, est-ce qu'effectivement la fermeture ou la disparition de Twitter serait une bonne chose ? Question secondaire, où aller ? Est-ce que c'est Blue Sky, un nouveau réseau social qui semble avoir en poupe et qui ressemble beaucoup quand même à Twitter ? Ou est-ce que c'est aller vers Mastodon, le réseau social décentralisé ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus ? Qui veut se lancer ?
Au niveau de la raison pour laquelle ils veulent s'en aller, c'est-à-dire cette régulation qui est trop protectrice. Et puis, j'avais pas eu ce truc-là sur la liberté d'expression. Il faut savoir que, par exemple, le réseau Threads, c'est dur à prononcer un bon, Threads, qui a été lancé par Meta, donc l'entreprise de Facebook, et qui est basé sur ActivityPub, ça c'était un truc qui était un peu surprenant. Donc ActivityPub qui est le logiciel qui est un protocole qui est notamment supporté par Mastodon, Peertube et compagnie. Donc ce réseau social Threads n'est pas disponible en Europe pour cette raison, me semble-t-il. Ils n'ont pas encore ouvert parce qu'ils ont du mal à s'adapter à la législation européenne, comme quoi ça sert à quelque chose.
Ouais.
Alors après, est-ce que Twitter va vraiment, enfin X, bon, même si le nom n'a absolument pris chez personne, hein, mais est-ce que ça va fermer ? Je sais pas s'ils vont avoir le courage de le faire. Je sais pas si le marché européen est pas quand même un peu trop gros pour eux, mais est-ce que ce serait une bonne nouvelle? Nous, en tant que libristes, on a tendance à dire entre guillemets oui, mais en vrai, de toute façon, Twitter fait partie de ces gros réseaux qui sont un peu en train de se saborder tout seuls, voilà. Quoi qu'il arrive. Donc,
j'aurais pas dit mieux. En fait, ils se sabordent tout seuls, quoi. Depuis qu'Elon Musk a racheté ça à 44 milliards, ça vaut plus que 8, donc ça vaut plus grand chose. Et il passe son temps à essayer de faire des annonces pour tester de nouvelles choses qui, font encore baisser son taux en bourse, quoi. Donc, si ça en va, est-ce que ça va vraiment le faire ? J'en suis pas sûre. Est-ce que c'est pas juste pour qu'on recommence à parler de lui dans les médias ? Dans ces cas-là, c'est réussi, puisqu'on est en train d'en parler, ne serait-ce qu'aujourd'hui.
Alors je précisais que dans l'article de Numérama dont il est question, alors tous les liens sont sur libreavoue.org, sur la page consacrée à l'émission, ou sur causecommune.fm sur la même page. Donc, il explique dans l'article que, notamment le Digital Service Act dont on a parlé tout à l'heure, il existe des mécanismes permettant d'infliger à X, donc le nom a pris dans Numérama, des amendes pouvant atteindre jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial. Bruxelles a aussi la possibilité, via ce texte, de déclencher d'autres pénalités ou de bannir le service d'Europe en cas d'infraction grave et répétée. Or, les obligations véhiculées par ces textes, notamment sur la transparence et la modération, entrent en collision avec la vision d'Elon Musk pour le réseau social, en particulier sur le terrain de la liberté d'expression qu'il revendique aussi large que possible. Par le passé, l'entrepreneur américain se présentait comme un militant absolutiste de cette liberté de parole. Voilà, c'est ce qu'explique l'article de Numérama.
Mais ça, c'était avant.
C'était avant quoi? Ah, c'était avant.
Avant qu'il se mette à virer des gens qui avaient dit des trucs pas gentils sur lui, quoi. Voilà. Du coup, la liberté d'expression, oui, mais bon, quand même, pas taper sur Elon, quand même.
Alors, si Twitter s'arrête, ou simplement si les gens décident de qu'ils en ont marre de rester sur Twitter, il faut aller où? J'ai entendu parler d'un nouveau réseau social, notamment dans un article dont on mettra aussi la référence, Blue Sky. Est-ce que vous en avez entendu parler?
Alors, moi, oui.
Vas-y, Magali.
Parce que mon chéri, il a reçu une invitation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir d'aller d'utiliser cette plateforme-là, il faut y être invité. Et même quand on est invité, il faut attendre un certain temps avant de pouvoir inviter d'autres gens. Donc ça ressemble à un réseau social, mais ultra fermé. Donc je pense qu'ils essayent
de
se protéger.
C'est select, tu veux dire ?
Ouais, ultra select, exactement. Ils ne veulent pas n'importe qui.
Alors, dans l'article dont il est question, en fait, alors il faut préciser que de mémoire, Blue Sky, je crois, était créé par l'un des créateurs de Blue Sky, l'un des fondateurs, c'est Jack Dorsey, qui avait aussi créé Twitter il y a quelques années. Et donc visiblement, pour le moment, il faut toujours un code d'invitation, exception faite des journalistes qui peuvent solliciter un accès directement auprès de la plateforme. Cette stratégie est loin d'être idiote, cela permet aux journalistes de se faire une nouvelle audience ailleurs et la plateforme de gagner en notoriété. Mais pour les autres, il faut toujours un code d'invitation et cela explique peut-être une partie du succès de la plateforme, parce que c'est effectivement, ça restreint un club un petit peu select de personnes qui discutent. Donc je précise aussi que ça reste un réseau privateur. Et on a parlé récemment de Mastodon, donc le réseau décentralisé basé sur des logiciels libres. Est-ce que c'est une solution pour les personnes?
Alors Mastodon, c'est très très chouette, on va évidemment pas dire le contraire. Par contre, moi, je dirais surtout, attention, Mastodon ne peut pas accueillir toute la mauvaise humeur du monde. Hein, et donc, tous les gens qui sont sur Twitter pour troller ou pour partager des trucs de nazis, restez chez vous, hein, ne venez pas sur Mastodon. Par contre, oui, en fait, le truc, c'est que Mastodon n'utilise pas les mécanismes de Twitter pour rendre les gens addicts à capter votre attention et tout. En fait, c'est de par même les mécanismes, il n'y a pas, par exemple, de subtweet, je crois que ça s'appelle, quand vous citez un tweet pour répondre, parce que ça, on a remarqué que c'était souvent quelque chose qui était utilisé pour déclencher des flame wars, je sais pas comment on dit en français, des batailles sémantiques violentes, disons.
Même des campagnes de harcèlement aussi.
Voilà, c'est ça. Donc tout ça fait aussi que Mastodon, quelque part, ne peut pas prendre la place de Twitter parce qu'il n'y a pas les mêmes buts, en fait, de base. Par contre, si vous voulez discuter avec des gens, dans un mode proche de Twitter, c'est-à-dire du message relativement court, Mastodon, c'est très bien. Ouais.
Mag?
Ce que j'aime bien dans Mastodon, c'est qu'on peut choisir son instance, c'est-à-dire le site qui va nous accueillir, qui va accueillir notre profil et qui discute avec plein d'autres sites, puisqu'il y a plein d'instances un peu partout dans le monde, contrairement à Twitter où il n'y a qu'une seule instance, et dans mes souvenirs, c'est en Californie, avec une équipe de modération qui applique une politique. Là, chaque instance a sa propre politique, donc bah, écoute, les gens que tu n'aimes pas, ils peuvent aller sur plusieurs instances dans lesquelles ils trouveront plein de nouveaux copains, et que d'autres instances peuvent bloquer si elles ne veulent pas parler avec eux.
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'on est vraiment, là, on a le luxe de ce qui ne sera pas centralisé, par définition.
Exactement.
Et donc ça, ben, ça reste en or. Moi, je voudrais reprendre ce qui est, c'est Luc tout à l'heure qui te parlait de merdification.
Tout à fait.
Ben là, du coup,
aussi,
avec
ouais.
les réseaux sociaux, je trouve qu'on est vraiment dans la merdification des relations sociales et des relations d'être à être, hein, avec des façons qui seraient toutes catégorisées. Il faut vraiment faire comme ça et pas autrement pour être en relation avec des gens. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je parlais pas, parce que j'y connais rien, puis je comprends rien. On a vu, mais là, on n'a pas vu, justement.
Bah, je te cherchais. Je te cherchais pendant 5 minutes.
Je t'ai pas trouvé. Voilà. Et d'ailleurs, moi, parce que vous avez parlé tout à l'heure de tweet, mais alors, attends, tweet, c'était quand il y avait Twitter, mais X, c'est quoi le bruit de X?
Et ben, figure-toi qu'il a pas pensé à ça il quand a il a changé pensé, le nom. Hein. C'est incroyable.
Parce que c'est... X, c'est archi porno. Donc là, on est vraiment bien. Au moins, il a dit ce qu'il avait à dire. C'est allez-y, foncez. Le tweet, c'est ça. Ok.
Tout le monde lui dit que c'était une mauvaise idée, que ça évoque du porno, tout ça. Mais bien sûr. Mais il avait son truc.
Mais ça fait buzzer.
Non, mais parce qu'il est bien. T'es trop bien. Mais il est dedans. Au moins, c'est clair. On peut pas. Il peut pas dire qu'il n'y est pas.
Bah, c'est ce qui arrive quand on a un con qui a beaucoup d'argent.
Alors, on précise qu'il y a pas mal de ce que je lis mes notes. Enfin, en tout cas, il y a le dilemme des administrations et sans doute d'autres personnes qui utilisent Twitter, donc X maintenant, pour une audience. Ça vaut aussi sans doute pour les marques, etc., pour parler effectivement à des personnes et qui se posent la question sur quel réseau aller. Et j'ai vu que certaines administrations commençaient à migrer, créer des instances, des comptes sur Mastodon. Il y a même la Dinum, je crois, qui a créé sa propre instance sur laquelle, alors pour l'instant, qui ne fait que du repartage d'informations. Je ne crois pas qu'il y ait de la possibilité de création de compte, mais peut-être que ça va venir. G, tu voulais préciser?
C'est d'autant plus une bonne idée pour les administrations qu'elles peuvent héberger leur propre instance et maîtriser complètement leur chaîne de communication, ce qui n'est pas du tout le cas avec Twitter. Quoi.
Absolument. Donc merci Elon Trump, comment tu l'appelles?
Alors si vous voulez en savoir plus sur Mastodon, je vous encourage à aller sur libravou.org. Il y a une émission qu'on a rediffusée il n'y a pas très longtemps sur Mastodon. Et encore une fois, tous les liens qu'on a cités sont sur libravou.org, dans la page consacrée à l'émission. Alors il est 16h30 et on approche de la fin du repas. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire tout. Est-ce qu'on commence par quoi? Est-ce qu'on fait quand même le pack Office logiciel libre, Rachel Next Impact? Tu veux faire ça? Eh bien, écoute, vous êtes nos invités, vous êtes ici chez vous. Donc, par contre, comme me l'a fait remarquer Étienne, j'ai oublié le changement de sujet. Tac, voilà.
Alors, parce qu'en fait, il a acheté une petite sonnette jaune, hein, vous la voyez
non,
pas.
Je ne l'ai pas achetée parce que je l'avais chez moi.
Donc tu avais chez toi une sonnette.
Elle est très jolie, elle est jaune et noire. On ne sait pas ce qu'il faisait avec ça dans sa maison.
En fait, là, maintenant, regarde.
Voilà.
Ah, donc voilà. C'est marqué pour l'apéro sonner ici.
Voilà, exactement.
Fallait pas.
Alors, si tu peux tout à fait le dire. Sinon, non,
c'est de la publicité mensongère puisque nous on a droit que de l'eau, hein. Donc.
Peut-être qu'à 17h vous aurez droit à autre chose alors.
À la deuxième du café libre, ça sera autrement, je pense là. Voilà.
Alors, nouveau sujet, avant-dernier sujet. C'est un article d'acteur public d'Émile Marzolf intitulé « Entre le pack office et les logiciels libres, les positions contrastées des agents publics ». Alors ça fait suite à une consultation en ligne « Fonction publique plus ». Ils aiment bien ces termes-là, plus, je pense. Organisé par le ministère de la Transformation et de la Fonction publique, à laquelle plus de 110 personnes ont contribué.
110 000.
110 000, effectivement, personnes ont contribué. Donc agent public de la fonction publique. Et parmi ces débats, visiblement, c'est assez traditionnel, on va dire, il y a une opposition entre les pros pack office de Microsoft et autres solutions de Google et compagnie. Et puis finalement, les pros une informatique éthique et respectueuse de ces personnes utilisatrices, celle des logiciels libres. Et ça, Isa, tu souhaitais en parler un peu?
Oui, je voulais en parler. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant cette affaire-là, parce que au-delà du débat lui-même sur les outils, parce que moi, je me souviens, il y a 30 ans, je pense à peu près, il y a 30 ans, je devais être en train de faire une formation au ministère de l'Environnement, il s'appelait à l'époque, pour leur apprendre à utiliser LibreOffice, d'accord, Writer, Calc, etc. Donc, je veux dire, c'est pas une chose nouvelle. C'est un espèce de vieux cheval de bataille qui n'en est même plus un, tellement il est vieilli. Et voilà, donc c'est très clair. Je trouve que c'est hallucinant de pouvoir présenter ça comme étant le sujet. Le sujet, pour moi, il est ailleurs. Il est dans un tout petit machin qui est dit ailleurs de la conclusion de la DIN.
Je précise quand même que, à ma connaissance, c'est les gens qui ont lancé ces sujets-là. Hein. C'est pas...
Les gens, les agents de la fonction
qui
publique...
Qui ont participé à cette consultation, oui.
Qui ont lancé le sujet de LibreOffice versus le PAC.
Oui, par des messages, hein. Dans l'article, certains messages sont cités.
Alors, je suis pas allé voir comment les questions avaient été posées, Fred, mais enfin, à mon avis, quand on a ce type de réponse aussi volontairement je suis pour, je suis contre, c'est que les questions, elles ont été posées pour ça. Je suis pas allé dans ce détail-là.
Non, on n'a plus accès du tout
au questionnement,
ce qui est dommage.
Et par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller voir la décision, entre guillemets, de la direction interministérielle du numérique, la DINUM, qui, il est dit dans l'article, a déjà pris sa décision. Sa nouvelle feuille de route présentée en mars dernier ambitionne de préserver la souveraineté numérique de l'État en investissant dans des outils numériques mutualisés. Comme si tout ça n'avait pas déjà été traité et comme si les sujets, là aussi, sont redondants. Moi, je me rappelle quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être que vous allez mieux vous rappeler que moi des dates de tout ça, mais qu'est-ce qui va développer nouvellement les outils là, de l'État? Est-ce qu'il a été prévu de changer les modalités de passage d'appel d'offres, d'appel à projet? Est-ce que l'État, qui depuis des décennies a nourri, engraissé Accenture, Capgemini, IBM France, Atos, etc., sur des chantiers hallucinants, non mais avec un fric fou, avec des façons de présenter les sujets de manière vraiment mais stupide et obsolète, et du coup, je sais plus, vous vous souvenez de l'histoire, comment ça s'appelait cette histoire du projet de paye interministériel là, où tout le monde devait avoir la même paye, et finalement,
c'était le ministère des Armées, je crois, c'est Louvois.
Ah non, il y a eu Louvois, mais je te jure qu'il y a eu aussi un autre projet qui est resté, et c'est Accenture IBM qui s'en sont mis vraiment plein les fouilles, je suis désolée. C'est resté en catimini, mais c'était un projet de paye pour tout le monde. Okay. Bon, en tout cas, tous ces machins-là, pour moi, c'est une catastrophe. C'est, on oblige à passer par une maîtrise d'œuvre. Donc là, est-ce que ça va être le cas aussi leur sac à dos numérique, là. Ils font bien rigoler. Et donc, on est toujours dans un même sujet, à la fois de pas de réalité de la souveraineté, je trouve. C'est pas vraiment le sujet tel qu'il est abordé là. Il est abordé sur un champ, on fait partir toutes les compétences informatiques de l'État, on met du privé partout, dans toutes les administrations, à qui on donne de l'argent, on centralise à nouveau. Enfin bref, on favorise toujours la même chose et la même façon de faire. Et on nous fait croire que c'est un débat ouvert à tous les agents. Ça va.
Avant de te laisser réagir, parce que je voyais, dans la citation que tu fais de l'article, après il était précisé, pour ce faire, elle, donc la DINUM, met un coup d'accélérateur assumé au développement d'une suite collaborative à la main de l'État, ou tout le moins à sa constitution à partir de différents logiciels libres existants. Donc il y a visiblement un projet assez
Oui, mais
important.
À qui vont-ils demander de le faire? C'est à ça que je répondais.
Je précisais l'objectif final de la direction interministérielle du numérique. G, rapidement.
Oui, ben, moi je suis d'accord sur le fait que la façon de poser la question, ça amène forcément à ce genre de résultat. C'est-à-dire que si on dit, si on reprend le truc de base, qui est donc comparons LibreOffice à la suite Office de Microsoft, par exemple, moi, je connais des gens qui vont utiliser les deux et qui préfèrent Microsoft. Mais en fait, le truc, c'est que ça, c'est prendre encore une fois un point de vue de consommateur, c'est-à-dire que se dire que l'État a le choix entre, dans un supermarché, entre deux trucs qui sont équivalents, alors qu'en fait, un logiciel libre, l'État pourra avoir un comportement d'acteur. Je veux dire, si au lieu de payer des licences à des boîtes américaines, ou même si c'est des grosses multinationales qui sont en France, ou peu importe, mais cet argent, si on l'investissait juste dans des équipes de développement public qui amélioreraient LibreOffice, par exemple, hein, c'est un exemple. Je veux dire, ça serait vertueux à tous les points, c'est-à-dire que ce serait de l'argent public qui paierait des fonctionnaires, des agents publics, pour quelque chose qui serait reversé à la communauté. Donc, je veux dire, ce serait quelque chose de vertueux. Au lieu de ça, on paye de la licence Microsoft, et après, on vient effectivement nous parler de souveraineté, mais bon, voilà.
Mag ?
Moi, j'ai confiance dans la DINUM, parce que je pense qu'ils sont capables de faire des choses bien. Par contre, c'est pas parce que la DINUM fait des choses bien, propose des choses bien, que les gens vont suivre. Parce que dans ma souvenir, la DINUM, ils ont pas ce pouvoir-là. Ils peuvent prescrire, mais ils peuvent pas imposer. Mais je suis quand même contente que la DINUM se charge de ce projet. Et dans mes souvenirs un peu lointains, il me semble qu'ils sont en train de recruter des gens, ou qu'ils ont recruté des gens. Donc, peut-être qu'ils sont en train de refaire rentrer des techniciens, des informaticiens en interne, ce qui serait une très très bonne nouvelle. Oui. Voilà. Mais même si eux, ils sont pleins de bonnes intentions, j'aimerais qu'elles soient suivies par les gens qui sont derrière.
Alors précisons que je crois qu'il y a deux postes ouverts à la DINUM, donc notamment dans la partie logiciel libre. Je ne me souviens plus des précisions des termes du poste, mais effectivement il y a du recrutement en cours et il y a une augmentation aussi du budget de la DINUM.
Tant mieux, si tout ça est vrai, tant mieux.
Et juste pour finir, avant d'aborder le dernier sujet, parce que comme ça on aura fait tous les sujets dans les temps et en heure, par rapport à ce que tu disais G, il faut quand même saluer le travail du ministère de l'Éducation nationale sur Big Blue Button, qui est un logiciel de visioconférence libre dans lequel le ministère de l'Éducation nationale a investi beaucoup d'argent pour contribuer directement avec l'éditeur, l'entreprise éditrice de cette solution. Voilà, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui dit voilà, c'est.
Tout n'est pas acheté, évidemment.
Ah non, bien sûr.
C'est un truc qui revient souvent, cette histoire de le logiciel libre, ça marche quand même moins bien que le privateur.
Tout à fait. Dernier sujet, enfin avant-dernier sujet, le dernier devrait être rapide, hein, parce que clin d'œil. Ça se trouve, je ne sais pas si vous aurez grand-chose à dire, mais moi je tenais à aborder ce sujet. C'est... je suis en train de lire le salon web, il y a quelqu'un qui fait une remarque. D'accord, ok, je ne lirai pas la remarque, mais... c'est Next Impact. Next Impact, le magazine en ligne d'actualité qui existe depuis... Alors sur l'actualité de l'informatique, qui existe depuis plus de 20 ans, qui a récemment été revendu à Ferdinand Chevron Breton, la holding de cette personne, Ferdinand Chevreau Breton, dont la société est notamment propriétaire de Moji, opérateur internet pour professionnels. Donc Next Impact, qui publie des articles de qualité, de très longs articles, souvent, à Jean-Marc Manach, qui je crois écrit les plus longs articles possibles, et aussi à Marc Kress, qui maintenant
Il n'est pas mort.
Mais bon, il a quitté Next Impact il y a quelques années pour rejoindre l'informé, qui faisait aussi de très longs articles, de très grandes analyses, dont le modèle économique était basé sur l'abonnement et aussi sur des publicités. L'abonnement vous permettant d'avoir un accès au site sans pub, sauf que ça suffisait pas tout simplement à équilibrer. Donc le propriétaire de Next Impact a décidé de vendre au bout de 23 ans. Je sais pas si vous aviez une réaction là-dessus ou pas, ou est-ce que vous êtes inquiet, ça vous rassure de savoir que finalement ça a été racheté avec un plan que les journalistes semblent soutenir. Vous avez le droit de n'avoir rien à dire sur le sujet.
Moi, j'avais rencontré Toff, donc l'ancien propriétaire.
Le créateur de Next Impact.
Voilà, le créateur, on est allé chez lui, chez sa femme, et ce projet-là, ça lui tenait vraiment à cœur. Alors moi, c'était il y a 10 ans. Ce projet-là, ça lui tenait vraiment à cœur de mettre de l'actualité dans l'actualité numérique, informatique, face aux gens. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y avait eu un format papier qui était sorti. Il y avait 4 numéros papier qui étaient sortis dans l'espoir de renflouer les caisses. Bon, alors je pense pas que c'est ça qui les a sauvés, parce que si le papier sauvait les entreprises, ça se saurait. Mais voilà, il y avait déjà cet effort-là qui était fait, mais qui avait un petit inconvénient, c'est que du coup, les articles sur le site étaient moins nombreux, moins approfondis, parce que format papier, quoi. Donc, quand il a dit qu'il voulait potentiellement vendre, moi j'étais inquiète parce que des bons médias comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand on a appris que ça allait être revendu et que ça allait continuer et que les journalistes étaient heureux, ça fait super plaisir, quoi.
Ok. Alors, on précise que d'un point de vue économique, donc Ferdinand Chevreau Breton, via sa holding, en fait, prend pour le moment en charge financièrement les frais de Next Impact, en attendant que la société arrive à un équilibre économique dans quelques années, et que visiblement, selon les annonces, ça serait basé toujours encore sur de l'abonnement, et là, avec la disparition totale de la pub.
Plus de pub.
Et il y a un site qui est en cours de création, un nouveau site web, et le magazine a changé de nom, donc c'est plus Next Impact, c'est Next, maintenant, ça rappellera tout court, ça rappellera une partie de l'informatique d'il y a quelques années, Next. Donc voilà, pareil, je vous ai mis l'article sur le site de l'émission sur libreavoue.org, donc on va voir, et puis on souhaite évidemment la meilleure aux journalistes qui restent dans cette équipe, parce que ces personnes-là font vraiment un travail extraordinaire, entre Mathilde Sayou, Jean-Marc Manac et les autres, franchement, big up à eux. Et à elle. Il nous reste très peu de temps pour le dernier point. Alors le dernier point dont je regarde, je crois que c'est Magali. Alors Magali, aujourd'hui tu es déguisée, mais tu...
Aujourd'hui c'est Halloween, donc qui dit Halloween à la librairie dit déguisement, maquillage, distribution de bonbons, menace de lancer des sorts. Et donc l'émission a lieu le même jour. J'allais pas me remettre en version libriste, donc je suis venue directement en sorcière avec mon balai, ma chauve-souris et mon énorme chapeau que j'ai dû poser parce qu'avec le casque on peut pas le mettre. Et donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que Halloween c'est un moment quand même assez devenu totalement commercial, mais qui à la base c'est pour penser aux gens qui sont plus là. Donc je pense aux gens qui sont plus là et je lance des sorts sur ceux qui me donneront pas de bonbons. D'ailleurs Fred, j'ai pas de bonbons.
T'as pas mis de bonbons, c'est ça?
Non, tu m'as pas donné de bonbons. Donc, t'es en danger, là, tu te rends pas compte, mais...
Ce que tu viens de dire me fait penser à un film récent de Pixar, je sais plus le titre. Je vais retrouver sur quand on pense le moment où on pense aux personnes qui sont parties. J, tu voulais réagir?
Oui, je voulais réagir en disant qu'effectivement, donc Magali est déguisée en sorcière, mais sans chapeau, elle fait très Lady Gaga en fait. Donc au début, quand je suis arrivé, je me suis dit, ah tiens, c'est pourquoi Lady Gaga porterait des habits comme ça? Et d'accord, après j'ai compris.
Effectivement, tu fais très Lady Gaga.
Est-ce que tu veux nous chanter quelque chose?
Non, vous ne voulez pas que je chante. Vous ne voulez pas.
Si.
Non, pas moi. Si.
C'est pas sous licence libre de toute façon, Lady Gaga.
Mais c'est très bon quand même.
Et en France, il y a le droit de parodie, ce qui fait que si tu fais une parodie, techniquement, alors elle n'est pas sous licence libre, mais on a des droits plus étendus dessus.
Non, je suis déjà en train de travailler sur une comédie musicale, on va pas en faire deux.
Eh bien écoutez, merci pour cette première. J'espère que les auditeurs qui nous ont écoutés, ça vous a plu. La prochaine aura lieu, je crois, de mémoire, le 21 novembre 2023. Alors, pas forcément avec la même équipe, vous allez découvrir d'autres voix. Donc, les personnes qui participaient aujourd'hui, donc Magali Gardero, G, et puis Isabelle Carrère. Et je vous remercie, et puis une bonne fin de journée.
Merci.
Et nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Laurent et Laurette Costi. Nous allons écouter en attendant Lover's Lane par Sucre Pop. On se retrouve dans 3 minutes 20. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
C'est la journée. Un peu d'amour, c'est le secret. Et infiniment plus que moi-même, je t'aime. Rendez-vous sur la route de Lover's Lane. C'est l'heure de se réveiller. Dans le cou, quelques baisers. Et toi, mon soleil, mon oxygène, je t'aime pour toujours. Allons vivre à Lover's Lane. Le silence des cathédrales, le soupir des étoiles.
D'écouter Lover's Lane par Sucre Pop, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC by SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. C'est la chronique « À cœur vaillant, la voix est libre » de Laurent Costi, administrateur de l'April, et de sa fille Laurette. Le thème du jour, coupe-frites verticales, rétro-ingénierie et transition associative.
Lecture érotique du mode d'emploi d'un coupe-frites vertical. D'abord, placez le récipient, puis... exercez une pression pour l'insérer. Ensuite, ajoutez tendrement la grille de nettoyage à la plaque poussoir avant d'assembler. Puis...
Papa, c'est gênant de fou.
Oh, Laurette, tu es là. N'oublie pas que demain, mardi, on enregistre la chronique à cœur vaillant La Voix est libre pour l'émission Libre à vous.
On est mardi, papa.
Ah, les calendriers sont facétieux en ce moment. Bon ben, je vais mettre de côté et l'enregistrement commencer pour un podcast de cuisine où les gens sont nus sous les sous-vêtements qui sont sous les vêtements qui sont sous le tablier.
Même si les libristes et toutes les autres personnes qui nous écoutent sont amateurs de cuisine, c'est mieux comme ça, oui, je pense, en effet. Parlons plutôt de mon projet d'alternance. Je pense que tu vas pouvoir m'aider.
Oh, trop bien, tu fais une alternance. C'est cool de pouvoir mettre en pratique ce qu'on apprend en cours. Je valide. Moi, j'aurais aimé pouvoir en faire une, mais c'était pas très courant à mon époque. J'aurais sans doute fait un projet autour d'une diode qui clignote. C'est une alternance. Une fois ça marche, une fois ça marche pas.
Oh bah, oui, mais moi c'est un peu moins ambitieux que ça quand même. Enfin, pour l'association qui a eu l'idée de me prendre en alternance, j'aimerais pouvoir la faire avancer dans sa migration vers un numérique plus éthique, avec par exemple des logiciels libres, tout ça quoi.
Ah oui, c'est plus facile que de faire clignoter une diode, c'est sûr. Mm-hmm. Bon, mais chacun doit agir à son niveau avec ses compétences. Et donc, tu as une idée de la manière dont tu vas t'y prendre pour embarquer les membres de l'association dans cette démarche, certes louable, mais trop souvent perçue comme une lubie ou un gadget technique ?
Bah, je crois qu'une des erreurs à éviter serait de laisser cette question dans le seul champ de la technique. Ça pourrait sous-entendre aussi que c'est un sujet qu'il faudrait laisser aux personnes compétentes. Et aussi au nom de l'efficacité. En tout cas, à court terme, ça encourage à ne pas changer ses habitudes parce que ce serait une perte de temps pour le projet associatif en lui-même.
Boudiou, dire que j'ai mis 20 ans pour arriver à cette conclusion. Mm-hmm. Tu me diras, tu viens d'avoir 20 ans. Et en passant, d'ailleurs, spéciale dédicace, bon anniversaire à toi, comme sur les radios libres de l'époque. Mais moi, je n'ai pas commencé à militer comme toi à la maternité.
Et bah oui, écoute, on n'a pas tous eu les mêmes chances. Tu as mal interprété mes pleurs à l'époque. Je ne voulais pas de lait, non, non. Mais je voulais déjà que les associations migrent vers des systèmes numériques plus éthiques, papa.
Oh, belle mission, je trouve. Mais suis-je objectif ? Bon, et donc, pour sortir cette question du seul champ technique dans lequel des personnes ou des structures souhaitent contraindre le numérique, dis-moi donc, Doudou, comment tu vas t'y prendre, dis donc ?
À bien y réfléchir, je pense que le plus dur, c'est de trouver le temps. Auprès du collectif décisionnaire, quelle que soit sa forme, d'expliquer pourquoi il est important de se poser des questions sur ce sujet et de tenter de démontrer une convergence entre les buts poursuivis par l'association et ce qu'apporte le numérique éthique et les logiciels libres. Waouh, je fais des phrases de fou. Je me demande même si moi je me suis comprise.
On peut réécouter plus lentement si tu veux. Tiens, ça donne ça.
À bien y réfléchir, je pense que le plus dur, c'est de trouver le temps. Auprès du collectif décisionnaire, quelle que soit sa forme, d'expliquer pourquoi il est important de se poser des questions sur ce sujet et de tenter de démontrer une convergence entre les buts poursuivis par l'association et ce qu'apporte le numérique éthique et les logiciels libres.
Ah bah oui, c'est plus clair. Et pour trouver ce temps absolument nécessaire, il faut trouver un ou une alliée au sein de la gouvernance. Alliée qui va pouvoir être entendue et convaincre ses pairs.
À partir de là, je pense que le plus dur est fait. Et c'est évidemment idéal quand c'est justement le collectif qui a décidé d'engager la démarche et qui va chercher la compétence externe pour poser les enjeux et mettre tout le monde au même niveau d'information. Oh, c'était hyper clair cette phrase. Je vais la repasser plus vite, tiens.
À partir de là, je pense que le plus dur est fait. Et c'est évidemment idéal quand c'est justement le collectif qui a décidé d'engager la démarche et qui va chercher la compétence externe pour poser les enjeux et mettre tout le monde au même niveau d'information.
Franchement, en passant d'ailleurs, merci à Tenacity. Tenacity, c'est le fork, autrement dit le logiciel dérivé du code source initial d'Audacity. Les fonctionnalités de ralentissement et d'accélération de propos, c'est vraiment trop cool. Mais pas que. Merci d'ailleurs global à toutes les personnes qui contribuent au fork et qui défendent le logiciel libre.
Bien dit et big up légitime. MuseCore avait effectivement racheté Audacity en 2021 et avait intégré de la télémétrie, c'est-à-dire une technique non désirée par les utilisateurs et utilisatrices qui permettait de surveiller les usages. Il s'est passé ce qu'il se passe souvent pour un logiciel libre dans ce cas-là. Comme l'y autorise la licence, des forks ont émergé. Des personnes ont copié le code source et ont créé une nouvelle version du logiciel dont la vie va évoluer différemment du code source d'Audacity. Celui qui semble tenir dans le temps est Tenacity. Mais revenons-en à la démarche pour aider les associations.
Prendre la décision d'engager la démarche et de banaliser un premier temps d'acculturation au sein de l'organe de décision, donc là on parle de conseil d'administration, bureau ou équivalent en fonction de la manière dont l'association est structurée, ça me semble être une première étape qui aide à avancer.
Et là, par expérience, je te recommande de faire venir quelqu'un de l'extérieur. Le discours sera écouté autrement que s'il vient de l'interne et pourra aider à aller au-delà de la seule question technique.
Mais tu serais pas en train de te faire un peu du placement produit pour toi-même, toi ?
Bon, d'accord, je veux bien venir, mais c'est parce que c'est toi. Hein.
Trop adorable, je ne m'y attendais pas, je m'en réjouis.
Bah, je suis comme ça, hein. Moi, je suis généreux, tout simplement. Et les étapes d'après, tu les vois comment, du coup? On supposera ici que le discours initial par l'intervenant extérieur a été efficace et convaincant.
Ah, oui, bah du coup, j'ai peut-être plutôt demandé à Pic de Framasoft, alors, oui.
Oh, je crois qu'il est pas libre en ce moment, il est surbooké.
Une autre erreur à éviter serait de partir tout feu tout flamme sur des changements d'outils sans avoir fait le tour des besoins, des outils existants, des pratiques et des différentes compétences de l'association. De là, il faudra prioriser avec les membres de la structure les changements pour des outils libres et respectueux et programmer ça dans le temps, sans vouloir aller trop vite et en accompagnant les membres surtout.
Encore du temps à prévoir dans des vies associatives qui affirment régulièrement dans les enquêtes que c'est une denrée rare.
Il est probable, mais ce sera à vérifier, que la première étape la plus réaliste à engager soit la migration vers la suite LibreOffice. C'est finalement une utilisation assez universelle, voire basique, que le traitement de texte et l'utilisation du tableur.
À cette occasion, tu risques d'entendre le sempiternel. Oh là là, LibreOffice, ça marche quand même moins bien. Quand on importe un document fait avec Word, ça déstructure toute la mise en forme et il faut repasser du temps. Grumblebleble, je n'ai pas que ça à faire.
Alors, il n'y a peut-être pas toujours le grumblebleble à la fin, mais ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais.
C'est justement à ce moment-là qu'il faut pourfendre l'injustice et rendre à la communauté LibreOffice ce que César s'est accaparé. Il faut bien faire comprendre pourquoi la mise en forme est bousculée. C'est le code fermé de la suite Microsoft qui est la cause de ces problèmes, pas LibreOffice, grumblebleble.
Mais oui, tu m'as expliqué un jour d'ailleurs que puisque le code source de Word est fermé, les développeurs et développeuses de Writer de LibreOffice doivent opérer par tâtonnement pour rendre les documents interopérables.
Exactement. C'est ce qu'on appelle la rétro-ingénierie ou ingénierie inverse, que Wikipédia définit comme l'étude d'un objet pour en déterminer le fonctionnement ou la méthode de fabrication.
Pour prendre un exemple concret de rétro-ingénierie, en informatique, toujours sur la page de Wikipédia, on peut lire « Pour écrire des pilotes pour certains périphériques, webcam, scanner, etc., les développeurs de logiciels libres se retrouvent souvent contraints à faire de la rétro-ingénierie sur un pilote privateur fourni par le constructeur en interceptant les échanges entre la puce et le pilote, découvrant ainsi comment dialoguer avec la puce. L'objectif est souvent d'améliorer la sécurité et la portabilité du pilote.
Et pour terminer, de nombreux éditeurs de logiciels propriétaires incluent dans leur CLUF, contrat de licence d'utilisateur final, des clauses interdisant la rétro-ingénierie. Cependant, dans de nombreux pays, la rétro-ingénierie est autorisée par la loi, notamment à des fins d'interopérabilité, dans notre cas, éviter de refaire la mise en forme. Dans ces pays, les clauses de ces CLUF, c'est pas facile à dire, ne sont pas valables, ou tout au plus, dans les limites déterminées par la loi.
Bref, faire comprendre aux membres de l'association où se situent les vraies raisons des difficultés qu'ils rencontrent les aidera sans doute à consacrer plus d'énergie et de temps au changement du logiciel.
Bon, on a bien avancé, il ne te reste plus qu'à mettre tout ça en œuvre. J'ai un autre podcast sur un thème plus culinairement sexy à enregistrer, je te laisse ici. La bise, ma puce au pilote libre.
Ouais, un jour, faudra peut-être que je te rétro-ingénierite le cerveau pour encore plus d'interopérabilité avec moi, mon papa. J'appellerai ça de la psychologie. Bon allez, bouton papa.
Nous venons d'écouter donc la chronique à cœur vaillant, la voix est libre de Laurent Costi, administrateur de l'April et des Affilerettes, et je crois que c'est partagé, c'est l'une des meilleures chroniques qu'on ait entendues de ce duo infernal. Voilà, exactement. Allez, nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par une annonce. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux à Paris au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement de Paris. Une soirée radio ouverte, une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé, l'occasion de découvrir le studio, de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée rencontre aura lieu vendredi 3 novembre 2023 à partir de 19h30. Donc je répète l'adresse, 22 rue Bernard Dimet, et je crois que Isabelle sera sans aucun doute présente.
Absolument.
Voilà. Et puis ben voilà, écoutez, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Luc, Magali Garnero, G, Isabelle Carrère, Laurent Costi, Laurette Costi, aux manettes de la régie aujourd'hui, Julie Chomard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, notamment avec Ardour, Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet des émissions en podcasts individuels. individuelle par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont également bienvenues par courriel à l'adresse contact@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou pour nous proposer ou nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 7 novembre 2023 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace public, l'espace numérique, excusez-moi. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 7 novembre et d'ici là, portez-vous bien.